aime l'été. Ah, va falloir vous habituer à ce petit indicatif qui fait quand même très très estival, hein, que l'on doit de redire à l'occasion, parce que je sais que vous allez être nombreux à me le demander, que l'on doit à Christine Tassan et les imposteurs. Alors je les remercie beaucoup pour cette charmante petite composition qui, je dois dire, fait bien notre affaire pour cette nouvelle émission estivale entre midi et une heure sur les ondes de Canal M, d'où d'ailleurs le titre M l'été, que donc animé par votre humble animatrice Clotilde. Il y aura beaucoup d'invités parce qu'il y aura quelque chose comme 3 ou 4 entrevues par heure. Et il y aura aussi des nouvelles. Et puis les entrevues, on les voudra parfois légères, parfois estivales aussi. Et puis parfois un petit peu plus sérieuses parce que les enjeux, évidemment, se poursuivent. Les soucis aussi, les développements, tout ça. Alors il en sera question tout au long de cette émission aussi. Autrement dit, aime l'été. Vous savez, toutes les émissions en ce moment qui sont en vacances, eh bien, en une heure de temps, on va toutes les regrouper dans la joie et la bonne humeur le plus possible. Alors rapidement, aujourd'hui, nous aurons bien sûr quelques nouvelles et puis je vais m'adresser en première demi-heure à Sylvie Lauzon, directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors. J'adore ça, commencer une émission par Les Petits Trésors de l'hôpital Rivière des Prairies. Et puis je vais également m'adresser à Isabelle Aymon aujourd'hui, directrice de l'évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la loi à l'Office des personnes handicapées du Québec, autrement dit l'OPHQ. Mais on commence tout de suite par quelques nouvelles. Faire tomber les barrières à l'emploi pour les Canadiens qui sont habituellement sous-représentés dans notre population active aidera la classe moyenne, de même que ceux qui travaillent dur pour en faire partie. Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi, du Développement de la Main-d'œuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, a lancé l'appel de concept pour un programme visant à aider les milieux de travail du secteur privé sous réglementation fédérale à faire tomber les barrières à l'emploi pour les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les membres de minorités visibles. Le travail de le programme de subvention et de contribution, possibilité en milieu de travail, éliminer les obstacles à l'équité, consacrera un financement allant jusqu'à 500 000 $ par année dans le but de créer des milieux de travail inclusifs et diversifiés par l'intermédiaire de partenariats et de stratégies propres à l'industrie. Dans le cadre de l'appel de concept de 2017, une préférence sera donnée aux projets qui ciblent les autochtones et les personnes handicapées, soit les deux groupes désignés qui sont confrontés aux défis les plus importants en matière de représentation dans le secteur privé sous réglementation fédérale. Les organisations ont jusqu'au vendredi 4 août 2017 pour présenter une demande. Les organisations dont les concepts de projet ont été choisis seront invitées à présenter une proposition de projet plus détaillée. Les organisations dont les projets ont été retenus commenceront à recevoir des fonds en avril 2018. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la CDPDJ, a émis mercredi dernier, la semaine dernière, une série de recommandations pour mieux encadrer les pratiques d'isolement et de contention dans les établissements de santé et de services sociaux. La Commission s'est plus précisément penchée sur le recours à ces mesures de contrôle en protection de la jeunesse. Elle dit avoir mené cette étude après avoir pris connaissance de données alarmantes. L'organisme a constaté une hausse des pratiques de contention dans plusieurs centres de réadaptation et unités pédopsychiatrique, une tendance qui va à l'encontre des orientations ministérielles. L'isolement est un outil que délaissent de plus en plus d'établissements, a-t-elle toutefois observé. et puis une décision syndicale qui pourrait menacer la réussite d'un enfant handicapé, la maman d'un petit garçon handicapé de 8 ans de Hérouville, je pense que c'est, voilà, lance un cri du cœur pour qu'il puisse continuer à être accompagné à l'école par la même technicienne en éducation spécialisée, la TES. Le cervelet d'Édouard Genet est atrophié depuis sa naissance. Le jeune garçon n'a aucune déficience intellectuelle mais ne parvient pas à effectuer ce qui est inné chez la majorité des enfants. Il est comme prisonnier de son corps parce qu'il comprend tout ce qu'on lui dit, explique sa mère, Marie-Anne Trudel. Il veut se faire comprendre, mais il a une barrière physique qui l'empêche autant de marcher, de courir, de parler et de manger normalement. Édouard Genet, un jeune garçon de 8 ans de Hérouville, est né avec un cervelet atrophié. Donc, il a terminé sa première année avec succès grâce au soutien de son éducatrice qui le suit depuis 3 ans. Or, il devra changer d'éducatrice lors de sa prochaine rentrée pour des raisons syndical. Le poste sera selon toute vraisemblance attribué à un ou une technicienne qui a davantage d'ancienneté lors de la prochaine année scolaire. Je ne peux pas croire qu'on va mettre les résultats académiques de mon fils en jeu pour des raisons syndicales. Selon Marie-Anne Trudel, c'est un changement qui risque de compromettre le parcours scolaire de son fils. La peur qu'on a, c'est que si on change de TES, c'est qu'on ait une période de transition de 3 à 6 mois, comme on a eu la première fois avec Sylvie, où au niveau académique, on n'aura aucune réussite. Avec l'appui de la commission scolaire, Marie-Anne Trudel demande au syndicat de faire exception et de prolonger le mandat de Sylvie Pelletier d'un an, le temps de mettre en place une transition sans mettre en péril les acquis d'Edouard. Plus d'aînés au pays souffrent de démence, les organismes qui viennent en aide aux personnes atteintes de démence et leurs proches sont déjà débordés et la situation ne fera qu'empirer, préviennent les experts, alors qu'un record de 400 000 aînés sont touchés par cette maladie au pays. C'est un vrai raz-de-marée, la maladie a une progression fulgurante. Dans quelques années, vers 2021-2022, on estime qu'il y aura plus de gens atteints de maladies neurodégénératives que de gens atteints du cancer et de maladies cardiovasculaires, lance le directeur général de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, Jean-François Lamarche. Selon les plus récentes données de l'Agence de santé publique du Canada, les personnes souffrant de démence n'ont jamais été si nombreuses, mais surtout, le nombre a grimpé de plus de 20 ans en 10 ans. Et M. Lamarche dit qu'au Québec, environ 141 000 personnes seront atteintes d'une forme de démence d'ici un peu moins de 10 ans. Il s'attend à voir ce chiffre grimper jusqu'à 250 000 personnes. Et puis enfin, à l'étranger, les Indiens signent à l'Ouest. Il s'agit d'une comédie musicale en langue des signes présentée en France. C'est tiré du conte musical composé par Juliette. Le spectacle Les Indiens signent à l'Ouest est l'aboutissement d'un travail de toute une année. 70 élèves du collège de Rochefort-du-Gard ont travaillé dur pour offrir un spectacle en langue des signes doublé pour les entendants. C'est un projet artistique vraiment de grande qualité qui représente une véritable prouesse, rendre accessible la culture pour tous. J'ai une première invitée en studio. Bonjour Sylvie.
Bonjour.
Sylvie Lauzon, directrice générale de la Fondation Les Petits Trésors de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Sylvie, vous étiez une habituée hein, de Canal M, puis je ne sais pas pourquoi. Là, depuis quelques temps, on vous voyait moins pour toutes sortes de raisons, mais on s'est dit, il faut ramener Sylvie Lauzon.
Ben, tant mieux, je suis très contente que vous m'ayez invitée. Je suis très contente de parler au nom mais de tous ceux et celles qui peuvent moins le faire parce que moi, en fait, la Fondation Les Petits Trésors s'occupe de la santé mentale des enfants et des adolescents. Et en fait, ces enfants, ces adolescents-là et leurs familles ont bien souvent tendance à s'isoler parce que c'est beaucoup plus simple d'être à la maison que de sortir sur la place publique pour en parler. Les gens ne comprennent pas. Il y a encore plein de tabous associés à la santé mentale. Alors, je suis très contente qu'on puisse en parler tout l'été, puis ça ne sera pas triste parce que quelque part, il y a de l'espoir.
Mais oui.
Et puis, si en fait, je n'y serais pas s'il n'y avait pas d'espoir. Et je suis assez bien placée pour le savoir. J'ai un fils autiste qui a maintenant 19 ans et malgré les grandes vagues à travers lesquelles on est passé, ben on est toujours là en train de nager et en train d'essayer d'atteindre le sommet de la vague.
Oui, et puis en même temps, vous avez des grandes joies, vous avez comme finalement...
Comme tout le monde.
Exactement, comme toutes les familles. Mm-hmm. Il y a des déceptions, parfois on n'avance pas, et puis qui n'avance pas recule, comme disait M. Dupneux, c'est bien connu dans la chanson de Jacques Brel. Mais donc, merci beaucoup d'être là. Moi, je voudrais commencer peut-être par un petit rappel, Sylvie Lauzon. Mm-hmm. La différence entre santé mentale et déficience intellectuelle.
Les gens confondent encore beaucoup,
absolument,
beaucoup, beaucoup. Ça n'a rien à voir. En fait, les problèmes de santé mentale, c'est de l'hyperactivité, des déficits de l'attention, des troubles anxieux, de la dépression, des tentatives de suicide, de la schizophrénie, des psychoses. C'est tout. L'autisme aussi fait partie de cette grande catégorie-là. Ça, c'est la santé mentale. Oui. La déficience intellectuelle, c'est un retard dans les apprentissages et compagnie. Ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir un problème de santé mentale associé à une déficience intellectuelle. Ça arrive souvent. Et de plus en plus, et demandez-moi pas pourquoi, là, j'ai ma petite hypothèse comme tout le monde, je pense qu'on vit dans un monde à un rythme infernal. De plus en plus, les enfants présentent pas un trouble de santé mentale, mais plusieurs troubles associés. Alors, tu peux être autiste, tu peux avoir un déficit de l'attention, tu peux être hyperactif, avoir un trouble anxieux, tu peux avoir ce cocktail Molotov-là, et quand ça se présente dans ta maison, ben ça saute de temps en temps. Et c'est vraiment une situation qui se complexifie, mais en même temps, on avance en recherche, on avance en soins, on avance en matière de répit, mais évidemment, vous avez entendu la dame tantôt dont vous avez parlé, c'est pas nécessairement un problème de santé mentale, mais vous le voyez à l'école, un petit problème syndical.
En fait,
ces enfants-là ont besoin d'assiduité, de stabilité et en fait,
il arrive exactement le contraire.
Syndicalement parlant, c'est impossible d'assurer ça dans un monde scolaire comme on connaît maintenant.
Comment, parce que vous le disiez en ouverture, il y a encore des gens qui se sentent tout seuls avec ce...
Mais beaucoup de gens se sentent tout seuls.
Comment on peut briser ça, Sylvie? Parce qu'il me semble qu'on en parle de plus en plus,
En fait... L'isolement, là, c'est le résultat de la difficulté constante à avoir à réexpliquer la situation.
Oui.
J'en connais plein de familles autour de moi. Bon, comme directrice générale de la Fondation, je rencontre souvent des gens qui vivent ce genre de situation-là. Même dans ta propre famille, c'est difficile. C'est difficile de comprendre la santé mentale. C'est difficile de comprendre que ce bel enfant qui a 5, 6, 7 ans ou peut-être plus, qui est beau comme un cœur, qui tout à coup te fait une crise, qui n'a pas d'allure, qui est inconsolable, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Tu te dis, mais ma foi, soit que ses parents l'ont mal élevé, c'est un enfant roi. Il y a beaucoup de mauvaises conceptions autour de ce qu'est la santé mentale. On a toujours l'impression que si on veut réellement, si ton enfant il est motivé, là, Sylvie, il va y arriver, mais c'est pas ça.
C'est pas comme ça que ça se passe.
Ça n'atteint même pas le niveau de la motivation. C'est souvent de l'impulsivité. C'est souvent, là, moi, l'image que j'utilise pour essayer de faire comprendre le plus aux gens ce que peut être un problème de santé mentale. Imaginez, vous êtes tous retrouvés un hiver, à un moment donné, dans une tempête de vent, dehors, avec le vent qui vous soufflait dans les oreilles, et tout ce que vous entendiez dans votre tête, c'était le vent. Il n'y avait rien d'autre qui était audible. C'est la même chose. Les problèmes de santé mentale, c'est comme une tempête qui souffle sans arrêt dans la tête de ces enfants-là. Donc, il n'y a aucun espace pour apprendre, pour entendre, pour dire « stop, je vais trop loin ». Quand ils sont en crise, la tempête sévit, il faut attendre qu'elle passe. Et là, on peut mettre en place des outils, non seulement pour essayer d'écourter cette tempête-là, mais pour que nos enfants soient capables, quand ils sentent monter en eux les symptômes de cette crise-là, qui puissent la ralentir, sinon l'arrêter. Mais vous vous imaginez ce qu'on demande à des enfants de 5, 6 ans, 7 ans?
Quelle image?
On leur demande d'être plus en contrôle que bien des adultes de mon âge que je connais, même que moi qui, par moments, perds les pédales pour beaucoup moins que ce qu'eux traversent.
Oui. Et essayez
donc. C'est pour ça qu'ils s'isolent. C'est plus simple.
Oui, bien sûr, exactement. Parce que essayez donc d'être dans un abribus là, quand les jours de tempête, là, quand vous n'entendez plus que le vent et que le bus n'arrive pas, je ne suis pas sûre.
Oh non, puis là, vous retournez chez vous, puis tout ce que vous avez, c'est d'un bon petit café ou d'un breuvage chaud pour essayer de vous calmer.
Oui, c'est vrai.
C'est ça, la santé mentale.
Bon, les petits trésors. Oui. Parlez-nous de cette fondation.
Alors, les petits trésors, c'est une fondation qui est née en 1986 ou à peu près. C'était justement des parents d'enfants qui étaient suivis à l'hôpital, qui avaient besoin de se retrouver entre eux pour en parler, puis pour aussi mettre en place des moyens pour aider leurs enfants à se sentir mieux, à aller mieux. En fait, tout ça est interrelié dans une famille. S'il y en a un qui va mal, tout le monde va mal. Quand on parle de santé mentale et de problèmes sévères, c'est vraiment comme une prison. C'est littéralement comme une prison de laquelle espèrent sortir. Alors, ces parents-là ont mis sur pied cette fondation-là qui, au départ, soutenait l'hôpital, la recherche, parce qu'il se fait de la recherche en santé mentale. Pour moi, la recherche, là, c'est le nerf de la guerre. Si on n'investit pas en recherche, on ne comprendra pas ce qui se passe, on ne pourra pas développer les soins et créer des outils qui vont aider nos enfants et les générations futures à avoir un bon équilibre mental. Mmh. Alors, on fait de ça, on fait des soins. Maintenant, on offre du répit aussi. En fait, on soutient des organismes qui offrent du répit. On va même faire, pour la première fois de l'histoire à la Fondation, en fait, on s'est associé au Théâtre Parmi Nous, qui est un théâtre socio-communautaire qui est absolument génial. Et il y a une tournée qui part en septembre, ça s'appelle la tournée Les Petits Trésors. Là, on parle d'une pièce qui s'appelle Pareil, pas pareil, et qui traite entre autres de déficit de l'attention. Ça va être présenté au primaire. Et on travaille sur un projet en anxiété. Il y a deux pièces qui sont actuellement à être développées par le théâtre et qu'on va aussi présenter aux enfants parce que la moitié des problèmes de santé mentale commencent avant l'âge de 14 ans. Alors, si les enfants, entre eux, peuvent savoir ce qui leur arrive, peuvent peut-être identifier un de leurs petits copains qui en a un problème de cet ordre-là, peut-être qu'on va arriver à se parler, peut-être qu'on va arriver à s'entendre et puis à s'aider à aller mieux.
Alors, et le théâtre parmi nous, là, il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose avec eux, au mois d'août, pour annoncer tout ça, évidemment. On va le faire, ça c'est...
J'ai tous les contacts, ils vont se faire un plaisir de venir ici. Bon. Ces gens-là, ils font des pièces dans toutes sortes de domaines, avec des groupes, par exemple, ils en ont fait sur l'intimidation, sur plein de choses, c'est vraiment génial.
Alors, Sylvie, en sortant de ce studio, voyez-vous, vous prenez le couloir à droite et le premier couloir à gauche, et vous allez tomber sur notre recherchiste, Sylvie Rivard, qui va se faire un plaisir de noter tout ça. Il nous reste peut-être juste 30 secondes ou une minute. Prenons-les, c'est l'été. On va beaucoup moins regarder la pendule. En été, comment ça se passe? Est-ce que c'est pire? Est-ce qu'on se sent abandonné ou au contraire, est-ce qu'il se passe plus de choses?
Moi, je vais vous dire quelque chose. Pour les parents qui travaillent, qu'ils aient des enfants qui ont des troubles de santé mentale ou pas, arrive le 23 juin, tu te dis, et qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Parce qu'on a deux mois de vacances et les nôtres durent quoi, deux semaines? C'est déjà une difficulté en partant. Pour des parents qui ont des enfants qui ont des troubles de santé mentale, c'est même dans certains cas, c'est un peu épeurant. Tu ne sais pas ce qui va arriver, tu ne sais pas En fait, tu sais pas ce que tu vas pouvoir faire parce qu'il y en a des camps spécialisés, mais des camps spécialisés à 1300, 1500 $ pour une dizaine de jours, c'est franchement inaccessible. Les camps de jour vont refuser ou, en fait, ils vont peut-être essayer d'intégrer vos enfants, mais ça durera peut-être pas. Alors, c'est compliqué. Donc, moi, je vous invite à respirer et je vous invite à utiliser votre environnement. En fait, parlez-en. Je pense que c'est la première chose. Parlez-en autour de vous. Et moi, je propose à tous les gens qui connaissent une famille dans laquelle il y a un enfant qui a un problème de santé mentale, de leur proposer de prendre leur enfant une demi-journée par semaine, une demi-journée ou une journée par mois. Ce ne sont pas des petites bébites rares, là. Ce sont des enfants. Et puis, ça peut être très agréable de développer ce genre de relation-là et tout le monde va gagner, je pense, de se rencontrer, de se parler.
Sylvie Lauzon, je vous remercie beaucoup. C'est un plaisir, vraiment.
Je suis intarissable.
J'ai adoré que vous ouvriez cette émission-là aujourd'hui. Merci, bravo. On va vous retrouver, évidemment. Et on n'oublie pas qu'on peut aller sur le site.
www.petittrésor.ca.
Voilà.
SS pour Trésor et Petit.
Merci beaucoup.
Cheveux comme Prévert, énumérer ici tout ce qu'il me plaît, ce qui me déplaît aussi. Dans mon sac à pain, il y a une souris. J'ai deux moineaux dans mon jardin, un coup de chagrin, une menace de pluie, des nouvelles de toi quand je m'ennuie. Mmh.
Bia sur les ondes de Canal M et qui nous amène maintenant vers une autre invitée qui doit être au téléphone, hein, je pense. Il s'agit d'Isabelle Aymon, directrice de l'évaluation et du soutien à la mise en œuvre de la loi à l'Office des personnes handicapées du Québec, autrement dit l'OPHQ, que nous connaissons bien sûr ici à Canal M. Bonjour Madame Aymon.
Oui, bonjour madame, vous allez bien?
Oui, je vais très très bien et je suis très heureuse de vous parler ce matin. Alors au sujet de cette politique à part entière, hein, alors est-ce que ça a permis de réduire vraiment les obstacles pour les personnes en situation de handicap? C'est le sujet de notre entretien. Qu'est-ce qu'on peut faire comme bilan aujourd'hui, madame Aymon?
Suite
au rapport d'évaluation, bien sûr, hein, qui est paru le 20 juin dernier.
Oui, on a fait paraître le 20 juin dernier quatre rapports
c'est
d'évaluation.
Ça.
En
d'accord.
Fait, quatre rapports différents qui portent sur quatre grandes habitudes de vie des personnes handicapées qui correspondent en fait aux besoins essentiels des personnes handicapées, que sont les activités permettant de vivre à domicile, les communications, les déplacements et l'accessibilité des lieux, ainsi que l'habitation. Donc, dans ces, on a vraiment un rôle d'évaluation, nous, à l'Office des personnes handicapées du Québec, et le Conseil des ministres a donné à l'Office le mandat de suivre et d'évaluer la politique à part entière. Donc, on fait des bilans annuels de mise en œuvre, mais le 20 juin dernier, on a sorti ces quatre grands rapports-là qui portaient vraiment sur les besoins essentiels. Donc, au niveau des activités permettant de vivre à domicile, ce qu'on peut retenir, c'est que la réduction des écarts entre les besoins des personnes et les services qui sont offerts demande à être accentuée.
Ah, okay.
On a pu observer que, oui, il y a eu une avancée au niveau des investissements faits au Québec en soutien à domicile, mais on a pu observer que ces avancées-là étaient plus particulièrement pour les personnes âgées de 65 ans et plus, qui peuvent également être des personnes handicapées au sens de la loi, mais on retrouvait moins d'avancées au niveau du nombre d'heures de service, par contre, pour les personnes qui ont une déficience physique, intellectuelle, oui. Trouble du spectre de l'autisme. Si je poursuis au niveau de l'habitation,
oui, c'est ça. Hein.
Si ce qu'on a pu observer et ce qu'on relate dans notre rapport, c'est un manque de ressources résidentielles diversifiées. Le milieu associatif, notamment, nous en a fait part tout au long des travaux. Il y a un manque de logements autonomes avec soutien. Mm-hmm. Et il y a aussi des délais qui peuvent être importants. Et on sait que ça ne fait pas partie de notre rapport, mais on a des informations qui nous permettent de dire qu'il y a des différences des fois selon les régions. Pour avoir accès à une ressource résidentielle du réseau de la santé et des services sociaux. Et ça peut faire aussi en sorte que des personnes de moins de 65 ans se retrouvent en CHSLD alors qu'elles bénéficieraient peut-être davantage d'une ressource résidentielle mieux adaptée.
Eh oui.
Ça, c'est au niveau de l'habitation, ce que je viens de vous résumer. Au niveau des déplacements, des transports,
oui.
On a pu observer, il y a quand même certaines avancées au niveau du transport en commun, de l'accessibilité des autobus, notamment dans les grandes sociétés de transport au Québec. Toutefois, ça, vous le savez, ça fait la manchette, le métro, il y a encore du chemin à faire, malgré que la STM s'est dotée d'un plan pour les prochaines années. Au niveau du transport adapté aussi, il y a de moins en moins de municipalités qui sont non desservies en transport adapté.
Oui.
Celles qui restent, ce sont des petites municipalités. Mais notre rapport fait état du besoin d'optimiser la gestion du transport adapté et augmenter son financement.
Oh oui, parce que regardez-moi qui lit les nouvelles tous les jours ici à Canal M, combien de fois on entend des hérésies, je pense assez récemment, je pense qu'on avait demandé une gare, est-ce que c'était à Saint-Constant, je ne me souviens plus, mais finalement ça a été refusé, alors là il faut que les gens aillent très très loin pour parvenir à prendre un train, en tout cas tous ceux qui habitent sur la rive sud de Montréal, dans ces coins-là, là c'est... En tout cas, hein, il n'y en aura pas de facile, comme on dit, quoi.
Effectivement. si je poursuis dans les autres constats, si vous le voulez bien.
Mais oui, je vous en prie, par exemple, dans le domaine des communications, peut-être.
Dans le domaine des communications, on s'est beaucoup attardé dans notre rapport d'évaluation sur la mise en œuvre d'une politique gouvernementale qui existe depuis 2006, qui s'intitule, son nom c'est l'accès aux documents et aux services offerts au public pour les personnes handicapées.
Oui.
Et ce qui est ressorti, oui, on voit qu'il y a une plus grande sensibilité des ministères et des organismes, mais On voit qu'il y a encore du travail à faire pour s'assurer de l'accessibilité des documents. Mm-hmm. Et je vous dirais que les ministères et organismes, dans le cadre de nos consultations, nous ont clairement dit on a du chemin à faire, mais on se doit d'être exemplaire. Donc, il y a du travail à faire au niveau de la mise en œuvre de cette politique-là. Mais elle a fait son travail avec nos partenaires gouvernementaux pour de plus en plus la faire connaître, cette politique. Je pense qu'elle est de plus en plus connue également, mais on a encore du travail à faire de ce niveau-là.
Qui a participé à cette évaluation-là, Madame Aymon?
Oui, l'Office n'a pas travaillé seul pour réaliser ces travaux-là d'évaluation. On a mis sur pied un comité de suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique dès l'adoption de la politique en 2009.
Okay.
Donc, ce comité-là, il est animé par le président de notre conseil d'administration, M. Martin Trépanier, et notre directrice générale, qui est Mme Anne Hébert. Et ce comité-là regroupe des ministères et organismes concernés, et ainsi que des représentants du milieu associatif des personnes handicapées. Et on a également M. Patrick Fougerolas, qui est un expert reconnu internationalement dans le domaine. Donc, ce comité-là nous a suivis depuis le début des travaux. Et avant la sortie des 4 rapports, je vous dirais qu'on a été pratiquement une année complète en consultation.
Ah oui, hein?
Auprès des ministères des organismes, auprès du milieu associatif, pour culminer à la sortie des rapports.
Bon, madame, il nous reste à peu près un petit 2 minutes. J'ai envie de vous demander, vous êtes optimiste pour quelles recommandations? D'après vous, quelles sont celles qui vont être priorisées?
C'est difficile à dire pour nous, à l'Office. Qu'est-ce qui est plus prioritaire entre l'habitation, les activités permettant de vivre à domicile? Parce que les 4 domaines que nous avons étudiés, c'est vraiment des habitudes de vie qui correspondent aux besoins essentiels des personnes handicapées.
Mm-hmm.
Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que l'Office a reçu le mandat d'effectuer le suivi des 67 recommandations qui sont émises dans les rapports. Il y en a certaines qui ressortent, là, je vous en ai fait part brièvement, des sujets qui étaient peut-être un peu plus où la situation est un peu plus difficile, mais je vous dirais qu'on a le mandat de suivre l'ensemble des recommandations, que les ministères concernés par les recommandations sont bien au fait.
D'accord. Écoutez, Madame Aymon, je vous remercie beaucoup de nous avoir éclairé sur ce sujet et surtout sur ces rapports ce matin, en espérant que les choses maintenant s'organisent et que le gouvernement réponde et qu'il y ait vraiment des solutions qui soient apportées. Je voudrais dire aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent que s'ils veulent en savoir plus et se procurer les rapports, ils peuvent le faire en consultant le site de l'OPHQ, donc ophq.gouv.qc.ca, c'est bien ça alors?
Oui, exactement. Uh-huh.
Et puis comme ça, on en saura encore beaucoup plus. Madame Aymon, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions-là. Et puis, bonne fin de journée.
Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
Allez, au revoir.
Bonjour.
Et vous écoutez M l'été sur les ondes de Canal M, c'est notre première aujourd'hui. Ah, alors on est un petit peu fébrile ici, c'est vrai que, vous savez, quand c'est une première, est-ce qu'on fait partir la musique là, etc. On va rôder tout ça, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, vous savez à quel point on travaille fort pour vous, il n'y a vraiment pas de problème. Et ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous aurons l'occasion au cours de cette émission-là de nous entretenir avec des gens qui bougent, avec des gens qui osent, avec des gens qui font avancer des causes, avec des gens qui créent aussi. Et par exemple, autour de moi, je reçois tout de suite Isabelle Côté. Isabelle, vous êtes directrice générale et artistique du Théâtre Aphasique.
Oui, merci, bonjour.
Et bonjour Isabelle, et je vous ai dit, venez pas toute seule, j'aimerais bien faire aussi connaissance avec une comédienne. Alors vous nous avez amené Chantal Gauthier. Bonjour Chantal.
Bonjour à vous.
Ravie de vous accueillir vraiment toutes les deux. D'abord, qu'est-ce que l'aphasie? Peut-être nous rappeler ce qu'est l'aphasie et pourquoi avoir mis sur pied ce théâtre aphasique et la vocation de ce théâtre.
Quelle idée. Alors l'aphasie, c'est la conséquence d'un accident vasculaire cérébral principalement, ou du moins d'un choc cérébral. Alors ça peut également être une tumeur au cerveau ou un traumatisme crânien. Et donc ça se passe au niveau du langage. Alors quand il y a eu un dommage au niveau du langage, au niveau du côté gauche du cerveau, les gens vont avoir une perte de capacité langagière. Et donc, ils vont avoir des difficultés à parler, à comprendre, à calculer, à lire, à écrire. Mmh. Et donc, il y a une orthophoniste qui a eu la bonne idée, il y a très longtemps de cela, plus de 20 ans, de réunir des patients aphasiques à elle et de faire des ateliers d'art dramatique avec eux.
Ouais.
En se disant que, comme l'orthophonie aidait le retour de la parole, ben forcément, le théâtre, ou du moins des activités théâtrales où on travaille la projection, où on travaille l'articulation, ben ça ne pouvait qu'aider ces gens-là.
Oui.
Et ils ont construit la troupe, ils ont créé la troupe à ce moment-là, le théâtre aphasique.
Alors Chantal, vous-même, vous avez été victime d'un accident?
Oui, j'ai fait un AVC, moi, du côté droit.
Ah, OK, du côté droit. Donc,
les gens qui font un AVC du côté gauche ont plus aphasique.
Oui.
C'est bien ça?
Oui. Alors, et vous n'avez pas de difficulté en tant que telle d'élocution?
Non.
OK, d'accord. Mais j'imagine que de faire du théâtre vous a quand même beaucoup aidé. En quoi?
Moi, il m'a aidé à mes émotions, parce que j'ai comme perdu le rire, être fâchée, tout ça, c'est tout mêlé dans ma tête.
OK.
Je peux être fâchée, mais mon visage ne le dit pas.
OK. Alors, du coup, le théâtre, eh bien, ça permet ça. Ça permet peut-être pas de retrouver une émotion au départ, mais du moins de la jouer.
Oui, de la vivre.
Oui. Et vous savez, moi, j'ouvre une parenthèse, mais qui vous concerne, c'est que j'ai des étudiants moi-même et j'utilise le théâtre pour les aider et tout ça. Et je leur dis toujours, réhabituez votre cerveau à être fâché. Réhabituez votre cerveau à être amoureux. Réhabituez votre cerveau à rire. C'est un petit peu ça que vous êtes en train de nous expliquer.
Oui.
C'est bien ça, Chantal.
Oui, oui.
Et alors là, il va y avoir une pièce. Il y en a une pièce que vous êtes en train de monter.
Oui, c'est ça. C'est un spectacle qui roule quand même déjà depuis un petit bout de temps, qui s'appelle Le Dernier Mot.
Oui.
C'est la 10e création du théâtre aphasique. Donc, on a quand même travaillé de différentes façons. Et là, cette fois-ci, on avait demandé à des auteurs d'écrire pour nous des courtes pièces, mais tous avec le même thème. Donc, il y a 6 auteurs qui ont accepté notre offre. Puis des auteurs intéressants, Alain Tremblay,
et
François Archambault.
Le thème,
c'était « Le dernier mot ». Alors, ils ont écrit 6. On a 6 petites pièces, « Le dernier mot ». Et là, ça nous permet de les jouer ensemble. On peut en jouer 3, on peut en jouer 4, tout dépendant le spectacle qu'on veut présenter. Et demain, on joue au Festival de théâtre amateur de Victoriaville. Et ils vont avoir la chance de voir 3 de ces scènes-là. Donc, 3/6, « Le dernier mot ».
Et Chantal, vous en êtes donc?
Oui.
Est-ce que vous jouez dans les 3?
Non, seulement dans une pièce, ça va être notre première.
C'est vrai?
Oui.
Alors, parlez-moi de votre rôle un petit peu. De quoi s'agit-il, Chantal?
Moi, je joue dans la pièce Cha-Cha-Cha. Ça s'appelle Cha-Cha-Cha.
Oui. Ça a été écrit par qui, savez-vous?
Martin Bellemare.
Martin Bellemare, ouais, d'accord.
Un auteur qui a complété l'École nationale de théâtre en dramaturgie.
Alors, votre rôle?
C'est complexe.
Prenez votre temps. C'est bien correct, Chantal. Regardez, on est juste en famille, là. Alors, vous savez, c'est vraiment ça. Alors, prenez votre temps, une bonne respiration.
C'est parce que c'est une pièce qui est complexe, parce que moi, je joue... c'est moi qui parle le plus.
D'accord.
Pas présentement, mais c'est moi qui parle le plus.
Oui.
Puis je joue le rôle de quelqu'un qui parle pas. Je suis comme ça, parole à la personne.
Oui, tout à fait.
C'est deux rôles, c'est un rôle, mais une personne qui parle pour les deux.
OK.
Alors oui, donc, c'est ça, c'est comme si elle était dans la tête du personnage. Le personnage qu'elle interprète ne parle pas, en fait. Le comédien ne parle
non,
pas.
Non, c'est ça.
Le comédien parle très peu. Et donc, c'est comme si elle pensait et elle parlait à sa place. Donc, elle le suit, elle le précède, elle explique ce qu'il fait, elle explique ce qu'il pense. Mais le comédien est très expressif, il joue tout ça, mais c'est elle qui est...
Je suis sa pensée.
Vous êtes sa pensée. Alors, pas de texte à apprendre?
Beaucoup.
Beaucoup de texte à apprendre.
Elle a beaucoup de texte. Lui, il n'y en a pas.
C'est lui qui n'en a pas. Beaucoup de texte à apprendre. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'apprendre les textes?
Oui, parce que ça fait un an que je travaille dessus.
Ça fait un an.
Je me disais, je ne serais jamais capable d'apprendre tout ça, mais j'ai pris une partie à la fois.
Eh oui. Mais on oublie tous de faire ça, vous savez. Puis ça, c'est pas juste vous. C'est ce qu'on devrait tous appliquer. Un jour à la fois, une heure à la fois, une petite bouchée à la fois, comme on dit. Puis finalement, avez-vous le trac en pensant...
Non.
Non? Vous n'avez pas le trac?
Non. J'ai la misère à voir le... Peut-être que je le lis, mais je me souviens plus que
vous
c'est ça.
Vous vous souvenez plus. Oui.
Mais je le sens pas.
Vous ne le sentez pas. Vous savez que ce n'est pas une mauvaise chose. Comme ça. Ça, ce n'est pas une mauvaise chose de ne pas avoir le trac.
C'est dur, le trac, oui.
C'est pas facile, le trac. Oui. Quand on a les genoux qui tremblent en dessous du micro, là, oh là 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 là, vous avez Chantal, pouf. Alors, il y a combien de comédiens sur scène,
il y
Isabelle?
Il y aura 12 comédiens.
12 comédiens.
En fait, je dis 12, mais ils sont 4 par scène. Donc, ils vont y aller, c'est une scène à la fois. Puis, à la fin, ils ont une scène commune, un texte lu, en fait. Qui vient un petit peu rappeler, parce qu'évidemment, on ne parle pas d'aphasie, on ne parle pas du théâtre aphasique dans le spectacle
non,
comme tel.
Non, non.
On entend que le dernier mot, ça traite quand même de la communication.
Bien sûr.
Mais il y a une espèce de texte rassembleur après les 3 présentations où ils se retrouvent les 12 sur scène à lire ce texte-là, « Je suis le théâtre aphasique ». Et donc, voilà, ça fait beaucoup de comédiens sur scène.
Alors, demain à Victoriaville, j'aimerais bien qu'on dise où, s'il vous plaît. C'est le pavillon du Mont Arthabaska, hein, c'est ça, je l'ai sous les yeux.
Voilà, oui.
Ça donc, c'est à Victo même. Le prix des billets, c'est 15 $ l'unité. Je précise pour les gens qui nous écouteraient dans la région de Victoriaville que, bien sûr, il y a des forfaits disponibles. Hein, donc, si on veut assister à plusieurs pièces, on peut acheter. Puis à ce moment-là, ça coûte moins cher qu'à l'unité. Et après, est-ce que vous préparez autre chose?
Après, en fait, ça va être les vacances.
Il va y avoir des troupes
qui continuent de répéter, oui. Mais on a joué à plusieurs reprises. On a joué à la Grande Bibliothèque de Montréal dernièrement. On a joué dans différents événements. Et là, donc, ce sera les vacances. Puis sinon, à l'automne, on rejoue un spectacle au Petit Medley, entre autres.
J'imagine que le théâtre aphasique est très enrichissant, d'une part pour les comédiens, mais aussi peut-être pour des gens qui, tout d'un coup, voient cette approche-là, qui sont peut-être spectateurs, eux, et qui ont peut-être été touchés par le même problème. Vous devez avoir beaucoup de beaux témoignages, non, à la fin d'une pièce de théâtre.
C'est certain que ça bouleverse beaucoup. Les gens sont toujours étonnés.
Ouais. Et vous, est-ce que vous échangez à ce moment-là? Et du coup, ça vient grossir les rangs, il y a des gens qui essaient. Et puis, Chantal, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent en ce moment et qui auraient peut-être fait, qui auraient eu un accident cérébral?
De sortir de la maison.
Sortir de la maison, oui.
Parce que le théâtre aphasique, c'est pas seulement des pièces de théâtre, il y a les ateliers.
Oui.
Moi, j'ai dit aux gens de sortir de la maison, d'appeler le théâtre, puis venir faire juste un tour.
Oui, oui. Quand vous dites les ateliers, qu'est-ce que c'est comme atelier?
C'est des ateliers d'art dramatique. Alors évidemment, parce que c'est pas tout le monde qui a la capacité ou le désir d'aller sur scène.
Non,
par contre, les ateliers, ben c'est quand même des exercices de voix physique. On va travailler l'expressivité, on va travailler le geste. Et donc ça, c'est des ateliers où les gens peuvent venir puis ils n'ont pas à apprendre de texte. Il n'y a pas la responsabilité de la scène.
C'est ça.
Le plaisir de rencontrer des gens puis de maintenir ses acquis. Hein. On a eu des acquis en réadaptation. Donc ça favorise le maintien des acquis. Obtenus en réadaptation. Et donc, ils viennent à l'hôpital Villa Medica faire les ateliers. Et puis, si le désir leur prend un jour d'aller dans la troupe, bien là, ça nous fait plaisir de les accueillir.
Écoutez, quel bonheur de vous avoir toutes les deux ce midi pour cette première émission Aime l'été. C'est exactement, voyez-vous, pour recevoir des gens comme vous et pour nous parler comme ça de belles...
Initiative,
oui, appelons ça comme ça, d'accord. Et puis Chantal Gauthier, vous savez que la tradition, c'est de dire un gros hein, mais faut pas dire merci. Mais faut pas dire merci surtout, hein, si quelqu'un vous le dit. Alors un gros M pour demain, M comme Canal
M. Comme
aime l'été. Merci beaucoup, Isabelle Côté.
Ça m'a fait plaisir.
Et puis, bravo au théâtre aphasique. Et malheureusement, je ne pourrai pas vous applaudir demain, mais j'encourage tous les gens qui sont dans la région à le faire. Tiens, puis je vais rappeler où c'est, à Victoriaville, au pavillon du Mont Arthabaska, demain, le 27 juin, à 20 h. Le théâtre aphasique, ne manquez pas ça. Merci à vous deux.
Merci. Your favorite song.
your friend into the elevator and went to write my number on a soggy paper towel. And the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, is it too soon if I call you Sunday, Eugene?
Voilà, Pink Martini, le groupe avec Eugene à l'instant sur les ondes de Canal M et Clotilde Saï qui anime pour vous Aime l'été. Oh, oui, on aime ça certainement. Et je suis très contente parce que ça fait déjà quelques mois que je ne m'étais pas adressée à André Vincent. André Vincent qui a dirigé le service québécois du livre adapté très longtemps, mais qui ne l'est plus, mais qui est encore membre du conseil d'administration de Vues et Voix et qui est membre du RAM. Bonjour André Vincent.
Bonjour Clotilde, vous allez bien?
Oh, je vais très très bien, André. André, aujourd'hui, on va se poser cette question. Comment peut-on changer la perception des personnes handicapées visuelles? En fait, c'est comment changer la perception des employeurs vis-à-vis des personnes handicapées visuelles. Parce qu'il y a encore du boulot à faire, hein, André?
Oui, il y a pas mal de travail à faire. En fait, je réfléchissais il y a quelques semaines là-dessus. Ça m'arrive... à l'occasion, et je faisais le constat qu'on est encore face à une situation qui n'a pas bougé tant que ça, si on regarde les statistiques, depuis bientôt 50 ans que je côtoie le milieu de la déficience visuelle. Mm-hmm. Oui, il y a beaucoup à faire.
Alors, on se demande... Et c'est ce que vous faites, parce que je tiens à préciser que vous avez fait paraître un article sur le travail chez les personnes déficientes visuelles.
Oui, un texte d'opinion.
Donc, oui, en fait, c'est ça.
Où je formule un petit peu ce que moi je pense de la situation, mm-hmm. et comment j'explique certaines choses.
Oui, et entre autres, vous vous demandez comment il se fait qu'en 2017, il faut encore légiférer sur l'accès à l'emploi, c'est bien ça?
Oui, ma réflexion est partie de là, puisque le gouvernement fédéral songe à adopter une nouvelle loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées, et je sais que la loi va aborder notamment la question de l'emploi, en tout cas, mm-hmm. dans les questions. Et pourquoi faut-il encore légiférer, alors mm-hmm. qu'on peut penser qu'avec toutes les nouvelles technologies qu'il y a maintenant à la disposition des personnes handicapées, et notamment les personnes déficientes visuelles, quand on sait qu'il y a de plus en plus de personnes déficientes visuelles qui poursuivent des études supérieures et qui ont un bon niveau de diplomation, alors qu'est-ce qui explique que la situation nécessite encore une intervention gouvernementale?
Mm-hmm. Et quelle est la réponse?
La réponse, d'abord, elle vient d'un constat. On est en 2017 et on constate que le taux d'emploi chez les personnes déficientes visuelles est autour de 38%, alors qu'il est de deux fois plus, 73% chez la population en général. Bon. On peut se dire, on peut comprendre la situation, les personnes déficientes visuelles ont davantage de contraintes, mais c'est quand même pas satisfaisant comme réponse.
Non, effectivement. Puis, donc, il y a le taux de chômage, et puis pourtant, il y a des moyens de plus en plus pour jouer un rôle actif. Et puis, vous l'avez dit, il y a de plus en plus de personnes handicapées qui détiennent des diplômes, mais pourtant, ça ne bouge pas. Vous vous demandez pourquoi il est encore nécessaire d'intervenir avec une loi. Il y a les
Oui, parce que la perception des employeurs par rapport aux personnes handicapées et déficientes visuelles, notamment, est encore empreinte de préjugés. Ah, oui. Bien sûr, on ne va pas le dire aussi ouvertement que ça, puisque ça paraît mal, puis ça passe mal, et il ne faut pas faire de discrimination. Mais dans la pratique, les employeurs, même quand ils côtoient au quotidien pendant des années des personnes qui ont un handicap et une déficience visuelle, sont souvent portées à voir davantage le handicap que la personne d'abord et ses compétences professionnelles. Et je pense que ça s'explique en bonne partie parce que quand on parle de déficience visuelle, on sévère, c'est un handicap qui paraît beaucoup et qui fait encore peur. Je pense il y a une quarantaine d'années, il y a une chercheuse qui avait dit découvert par ses recherches que
le handicap,
être aveugle, c'était probablement le pire des handicaps pour la population. Et je pense que c'est encore un peu vrai de nos jours.
Il y a des gens qui apparemment, je sais que c'est quelque chose sur lequel vous voulez aussi parler et vous étendre un petit peu pendant cette entrevue-là, qui renforcent par leur attitude et leur comportement la crainte des employeurs d'avoir à payer un prix trop lourd en accommodement. De quoi parle-t-on là?
Oui, je fais le constat, encore là, c'est mon opinion, que les milieux de l'éducation et de la réadaptation qui interviennent auprès des personnes qui ont une déficience visuelle n'ont pas toujours l'attitude positive et pour favoriser chez les personnes auprès de qui elles interviennent un comportement proactif dans leur inclusion. Je m'explique. Je pense qu'on a tendance trop souvent parfois à dire « ben c'est pas facile d'être déficient visuel, puis telle chose est difficile ». Et on ne renforce peut-être pas suffisamment là, la notion d'effort, parce que ça demande un effort pour une personne déficiente visuelle, bien sûr, de poursuivre des études, mais par la suite, d'occuper un emploi. Et je donne quelques exemples. On sait que le braille, c'est reconnu chez les personnes qui ont une déficience visuelle sévère. C'est les personnes qui utilisent le braille qui occupent le plus fréquemment des emplois. Intéressant. Et pourtant, dans les milieux de réadaptation et d'éducation, on a tendance de nos jours à dire le braille, c'est difficile, c'est une chose dans l'esprit de certains, il faut presque plus l'enseigner puisque c'est trop difficile, alors que c'est pas du tout le cas, je peux en témoigner.
Oui.
Mais ça demande un effort de l'apprendre. Autre chose, on constate que de plus en plus de jeunes non-voyants se rabattent pour se déplacer sur le transport adapté, dont les horaires sont peut-être un petit peu aléatoires à l'occasion. Comment se fait-il qu'à 20 ou 30 ans, on doive recourir au transport adapté si on n'a pas d'autres raisons que la déficience visuelle? Et quand on dépend d'un transport adapté pour un emploi régulier qui demanderait peut-être des horaires flexibles, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux vu par les employeurs.
Je comprends.
Donc, ce sont quelques exemples parmi bien d'autres, mais je trouve qu'il faut davantage encourager les personnes déficientes visuelles à démontrer des efforts personnels, à être proactifs dans la recherche de solutions qui vont faciliter leur inclusion au travail et non pas toujours attendre que la solution vienne de l'employeur ou vienne d'un centre de réadaptation, etc.
Message entendu et compris, André. Et du côté de l'employeur, qu'est-ce qui peut être fait?
Je pense que ce qui peut être fait, j'ai parlé de législation tantôt, et je pense que c'est nécessaire quand même parce que À compétence égale, on constate que chez les Canadiens actuellement, les employeurs qui ont été sondés, il y en a 70 % qui vont préférer engager une personne non handicapée à une personne qui a une déficience. Donc, il y a encore énormément de travail à faire et je pense que la question d'établir certains quotas à atteindre devient nécessaire. Mais il y a également la sensibilisation pour montrer que la déficience visuelle a les outils pour bien faire le travail. Elle a les compétences, mais les outils aussi qui vont faciliter ça. Je crois qu'avec les besoins actuels, on sait que la population vieillit beaucoup et que les employeurs constatent qu'il y a un manque, un manque à gagner, mais dans le sens de pour trouver une relève. Et je pense qu'ils vont devoir se tourner vers des personnes qui n'étaient pas nécessairement visées dans leur plan d'embauche, mais qui devraient l'être davantage dorénavant.
André Vincent, tout cela est fort intéressant et vous savez que vous participez à la toute première émission de Aime l'été, d'accord?
Oui.
Alors, sujet sérieux, sujet peut-être parfois un petit peu moins sérieux. Je voudrais, si vous me le permettez, vu qu'il me reste encore une petite minute, je voudrais profiter de cette minute pour vous poser une question. Est-ce que vous jouez toujours aux échecs?
Je joue toujours aux échecs de plus en plus. Je suis actif et cette année, je suis devenu président de l'Association des joueurs d'échecs handicapés visuels. Et en novembre prochain, on va tenir notre 20e tournoi. Donc, c'est un anniversaire. Ça va se dérouler à Montréal. Et je joue toujours aux échecs.
Bon, alors écoutez, vous savez qu'on va certainement se rappeler parce qu'il y a beaucoup de gens, d'ailleurs comme moi, qui se demandent, mais comment ça se passe quand on joue aux échecs et qu'on est non-voyant?
Bien, ça me fera plaisir vous en parler, d'autant plus qu'il y aura cette année une nouveauté chez nous, un tournoi junior pour les jeunes non-voyants de moins de 18 ans.
C'est quand ça?
C'est au mois de novembre.
D'accord.
Oui.
Alors écoutez, à un moment donné cet été, là, on vous rappelle et on vous dit, expliquez-nous comment ça se passe, parce que c'est une question qu'on nous pose très souvent. Comment ça se passe, les échecs pour les personnes non-voyantes? Voilà, alors ça c'était pour le petit côté un petit peu plus léger de cette entrevue avec vous.
Ça me fera grand plaisir de répondre à vos questions à ce sujet-là.
Merci beaucoup, André.
Et bon succès avec cette émission estivale.
Ben, vous êtes très gentil, André. André Vincent, je rappelle que vous tous qui nous écoutez, contactez le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain si ce n'est déjà fait. C'est simple comme bonjour, c'est raam.org. Je voudrais remercier donc André Vincent d'avoir répondu à mes questions, lui qui est membre du RAM et qui se fait du souci pour l'avenir des non-voyants au Québec et au Canada. Merci beaucoup, Monsieur Vincent.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Quelques nouvelles en rafale. Un groupe de soutien estival pour les jeunes. Enfin, l'été est arrivé, oui, tout comme le début des vacances. Inca Québec souhaite profiter de cette occasion en or pour réunir des jeunes ayant une limitation visuelle dans un groupe de soutien animé par un étudiant en travail social. Alors, si tu as entre 12 et 19 ans, vous dit le groupe Inca, si tu as entre 12 et 19 ans, ce groupe est l'occasion rêvée pour faire la rencontre de jeunes de ton âge, dans une ambiance très amicale et décontractée. Et puis, c'est aussi la possibilité d'échanger avec eux sur les trucs et les astuces, mais aussi sur différents thèmes que vous choisirez ensemble en fonction de vos intérêts, les études, les relations amicales, les voyages, etc. Possibilité infinie. Alors, le groupe se donnera rendez-vous une heure par semaine et ce, durant 5 semaines consécutives. Les séances se tiendront par téléphone sous forme de conférences téléphoniques et débuteront le mercredi 28 juin de 13h30 à 14h30. Mercredi 28 juin de 13h30 à 14h30. On s'inscrit en contactant Damien Gramont au 514-934-4622 au poste 247 ou encore plus simplement damien.gramont@inca.ca si vous voulez le joindre par courriel. Et puisque nous parlions du RAM, tiens, avec André et Vincent, sachez que le RAM tient à vous informer que le service d'aide bénévole sera fermé pour les vacances estivales du 14 juillet 2017 à compter de 11h30 jusqu'au 13 août 2017 inclusivement. Le service va donc reprendre à compter du 14 août à 8h du matin. Pour ceux qui prévoient d'avoir des besoins d'accompagnement pendant cette période, on vous dit de vous adresser vos demandes au service d'aide bénévole au poste 115 avant le lundi 10 juillet 2017, au plus tard à 16h. Et on vous remercie de votre collaboration et on en profite au RAM pour vous souhaiter de bonnes vacances. Voilà, c'était la première de M l'été, animée pour vous par Clotilde Seille. Merci à mon équipe, Sylvie Rivard, Louise Vien et Jean-Sébastien Laliberté. Bonne journée et à demain, midi.